Frères et sœurs bien-aimés, en méditant cet évangile en ce dimanche, nous poursuivons notre méditation du sixième chapitre de l'évangile selon saint Marc. Il a commencé lorsque le Seigneur est retourné dans sa ville d'origine, à Nazareth, et là où le Seigneur a vécu, non sans amertume, l'échec de sa mission, puisqu'à Nazareth, il n'a pu accomplir aucun miracle, non que le Seigneur n'en ait le pouvoir, mais le Seigneur laissant toujours notre liberté intacte, que l'État l'entende, le Seigneur donc laissant toujours notre liberté intacte, eh bien ne veut pas faire des miracles contre leur volonté. Ils ne reconnaissent en Jésus que le fils de Joseph, le fils de Marie, le fils du charpentier. Qui est-il donc celui-là pour faire des miracles? Qui est-il donc celui-là, le charpentier, pour parler des Saintes Écritures avec autant d'autorité? Et Jésus, dans ce contexte hostile, est non seulement profondément déçu par leur manque de foi, mais ne peut accomplir aucun miracle. Ce chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc s'est poursuivi dimanche dernier. Le Seigneur ne s'est pas laissé ainsi faire. Il a demandé aux disciples et aux apôtres d'aller avec lui dans toutes les villes et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi que dimanche dernier, nous avons entendu l'envoi en mission des disciples et des 12. Et aujourd'hui, nous entendons le retour de cette mission. Cependant, avant d'en venir à l'Évangile même de ce jour, il y a entre l'envoi en mission et leur retour un phénomène très important, c'est la mise à mort de saint Jean-Baptiste. Saint Marc nous a bien précisé dans l'évangile selon saint Marc qu'il reprenait la prédication de Jean le Baptiste. Et voilà que maintenant que Jésus envoie ses disciples à travers la ville pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la conversion et la repentance, pour chasser les démons et guérir les malades, et bien voilà que le ministère de saint Jean le Baptiste s'arrête pour le prix d'une danse endiablée. Hérodiade, l'épouse d'Hérode, demande donc la tête de saint Jean Baptiste sur un plat. Voilà qui a profondément marqué les apôtres, car certains avaient été disciples de Jean-Baptiste avant de suivre le Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste étant l'homme qui est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons là la bonne nouvelle qui prend un nouvel élan, un nouvel essor. Nous n'attendons plus le Messie, il est là, il est le Verbe de Dieu. Et voilà qu'une foule nombreuse se met à suivre le Seigneur Jésus. Les apôtres, en ce dimanche, reviennent d'une prédication qui a été intense. Ils se sont peu reposés, ils n'ont guère eu le temps de manger. C'est dire la faim et la soif de ces foules qui se déplacent même, voyant le Seigneur amener les apôtres à l'écart, à la fois pour qu'ils se reposent, mais surtout pour qu'ils se ressourcent dans la prière. Et saint Marc, qui écrit cet évangile un peu comme un vademécum pour la mission, pour cette église de Rome pour laquelle il écrit cet évangile, eh bien, manifeste là un trait essentiel. Même Jésus, lorsqu'il passe ainsi des jours et des jours de prédication, se met toujours à l'écart, à la fois pour se reposer, certes, mais surtout pour se ressourcer à travers la prière. Et nous avons là, frères et sœurs, déjà une indication importante. Nous ne pouvons rien annoncer si nous ne vivons nous-mêmes, eh bien, du Seigneur Jésus le Christ. Eh bien, cette foule qui voit et qui comprend que le Seigneur amène les 12 pour se ressourcer, eh bien, continue à pied à suivre le Seigneur Jésus, à suivre les apôtres. Des apôtres qui ont accompli les mêmes signes que le Seigneur Jésus, ils ont chassé les démons en son nom et ils ont guéri de nombreux malades. Eh bien, juste après cela, voyant une telle foule, eh bien, voilà que le Seigneur est pris de pitié. Et cela tranche avec le commencement de ce chapitre 6, où le Seigneur intérieurement a été profondément déçu, blessé même, de ce manque d'accueil de la part de ceux qui l'ont vu grandir à Nazareth. Et là, il voit cette foule, qui ne l'ont pas connu comme le charpentier, eh bien l'accueillir avec foi. Et c'est pour eux, à la suite de ce chapitre 6, selon saint Marc, que le Seigneur va multiplier et les pains et les poissons. Et nous l'entendrons dans 15 jours nous dire dans l'évangile selon saint Jean que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces foules innombrables étaient des brebis sans berger, et voilà que le Seigneur, le bon berger, eh bien, vient les conduire vers les verts pâturages de la vérité, vers les verts pâturages de la vie éternelle que chacun nous espérons dans la foi. En ce dimanche, c'est l'occasion pour nous de prier donc pour les pasteurs, pour qu'ils puissent se ressourcer en Dieu et pour qu'ils ne prennent pas un malin plaisir à disperser le troupeau de l'unique Église de notre Seigneur Jésus le Christ. J'ose imaginer que le pape, comme nous, lira la première lecture et la méditera. Nous pourrons chacun la relire. Le Seigneur ne se réjouit d'aucune division dans son Église, d'où qu'elle vienne. Et voilà que le pape Benoît, qui avait tant apaisé l'Église sur des sujets importants, eh bien là, le pape François rallume des feux. Et heureusement qu'un certain nombre d'évêques ont déjà fait des communiqués pour témoigner de à quel point dans leur diocèse, comme le nôtre, cette situation est apaisée. Si nous continuons à vouloir alimenter la guerre et les divisions, ne nous étonnons pas que beaucoup quittent l'Église pour rejoindre la fraternité Saint-Pie-X. Ainsi donc, avec beaucoup d'insistance en ce dimanche, prions pour l'unité de l'Église. Ah, on sait nous en parler quand on nous parle des orthodoxes, des protestants, mais quand ce sont nos frères les plus proches, on devrait presque s'en réjouir. Eh bien non. Nous avons à beaucoup prier le Seigneur, le bon berger, les apôtres, pour que tous se ressourcent et avant d'apaiser l'Église, qu'ils s'apaisent eux-mêmes. Nous prions également parce que dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de foules qui sont des brebis sans berger, qui ne connaissent plus, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus le Christ. Et cela est notre véritable mission, non pas de nous réjouir de quelques divisions, mais au contraire d'œuvrer pour que tous puissent entendre cette bonne nouvelle, que tous puissent venir recevoir les sacrements de l'Église. Et en aucun cas, l'unité n'est comparable à l'uniformité. Et encore une fois, pourquoi une messe que l'on a célébrée pendant 1960 ans serait aujourd'hui devenue diabolique? Il nous faut, avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de foi, d'espérance et de charité, car la vérité se fait toujours dans la charité, et bien prier pour que tout soit un. C'est bien cette prière que le Seigneur Jésus fait au Jardin des Oliviers, en compagnie des apôtres. « Mon Père, je vous prie pour que tout soit un. » Eh bien, prions chacun pour cette unité qui commence en nos âmes. Prions chacun pour cette conversion que le Seigneur Jésus est venu promettre à chacun, est venu manifester. C'est cette même conversion que la belle dame des Roches de Massabielle à Lourdes est venue nous rappeler à travers Bernadette. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Voilà pourquoi chacun d'entre nous devons nous battre. Nous ne nous trompons ni de bannière ni de croix. La croix du Seigneur est notre seule victoire. Elle est le scandale de la croix, le scandale de la souffrance, le scandale du Seigneur qui meurt seul et isolé. Mais voilà comment, dans l'Église, nous pourrons porter beaucoup de fruits. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, la mère de l'Église, la reine du clergé, eh bien nous aider en cela. Ainsi soit-il.